18h02, un peu plus tard à l'émission, Fabienne Larouche va être avec nous pour faire le point sur la suite des choses en termes de tournage de fiction. On sait que les talk shows, ça va. Autour de la fiction, là, il y a un petit peu plus de flou, si je ne m'abuse. Et aussi, Richard Châteauvert, notre correspondant à New York, va nous parler de tous ces troubles au Minnesota et ailleurs au pays depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain qui était menotté et qui est mort parce qu'un policier lui s'est littéralement presque assis à genoux sur son cou, une des parties les plus vulnérables de son corps. Ça a été filmé. Il est décédé et ça cause beaucoup de remous aux États-Unis. On va en parler avec Richard Châteauvert, mais pour l'instant, notre ami Paul Hood est là pour le tour d'horizon de la COVID quotidien. Salut, Paul.
Bonjour, Patrick.
Donc, écoute, il y a de bonnes chances, c'est le Washington Post qui nous apprend ça, il y a de bonnes chances que le coronavirus novel SARS-CoV-2 soit installé pour toujours, même avec un vaccin.
Exactement. Et ce n'est pas une catastrophe. On va essayer de comprendre. La docteure Sarah Kobe est une épidémiologiste très reconnue à l'Université de Chicago. Okay. Elle a dit « on va vivre avec ». Et elle a dit même avec un vaccin. Et elle n'est pas la seule virologue, épidémiologiste à penser ainsi. Évidemment, ça peut être contesté par d'autres. Ce que ça veut dire, c'est que, je vais donner un exemple très concret. Le cousin de l'actuel coronavirus, je t'en ai souvent parlé, c'était le SRAS. Tu te rappelles, en 2002-2003, on a craint une pandémie, une épidémie en tout cas qui allait perdre le contrôle. Puis finalement, il y avait eu 774 décès à la grandeur de la planète. Le coronavirus SRAS, l'original, si tu veux, il est toujours avec nous, mais il n'est pas réapparu depuis 17 ans. Et c'est le propre des virus de se cacher pendant très longtemps ou de réapparaître sans avertissement. Et c'est le sens de cette étude qui dit, comme le docteur le dit, docteur Sarah Kobe, on va apprendre à vivre avec, même si on avait un vaccin, au même titre que la rougeole, le VIH, la varicelle ou l'influenza. L'influenza revient chaque hiver. Dans les pays où l'hiver est un peu plus rigoureux, où il y a moins d'ensoleillement, moins de chaleur, l'influenza revient. Et soit dit en passant, il y a beaucoup de spécialistes qui disent que ce sera très important cet automne de prendre le vaccin antigrippal. Des fois, il est moins efficace que d'autres années, mais enfin, certains disent que... Alors, pourquoi donc? En observant qu'il peut disparaître pendant un long moment pour mieux réapparaître sans avertissement, on dit que ce coronavirus a appris à vivre chez l'être humain, mais il va falloir que l'être humain apprenne à vivre avec le coronavirus.
Tu veux dire qu'il va falloir qu'on... En fait, ce qu'elle veut dire, cette chercheuse-là, c'est que les individus et les sociétés vont devoir s'adapter.
Exactement. Et quand on a une maladie qui s'installe, comme les oreillons, la rougeole, la rubéole, la varicelle, on dit que ces maladies-là deviennent endémiques. Elles font partie de notre environnement. Et, tu sais, ça n'a pas toujours été le cas pour d'autres virus. La variole est un des virus qui a tué le plus d'êtres humains sur la planète. Lui a été éradiqué. Le virus de la variole a été éradiqué en 1980. L'OMS a mené un effort de 22 ans, te rends-tu compte? 22 ans de vaccination.
Rappelle-nous ce que ça faisait, la variole.
Ah, c'est épouvantable. Des pustules, surtout, là. Dans la phase avancée du virus variola, je crois, qu'on l'appelait, les individus développaient une forte fièvre. Puis tout à coup, les boutons, les pustules se mettaient à sortir. Écoute, je vais t'épargner les détails. C'était, quand tu meurs...
C'était pas beau à voir.
Ah, c'est effrayant. C'est une des pires morts avec l'Ebola, qui est un autre virus absolument terrible et très létal. Alors, donc, on l'a éradiqué, la variole, mais au prix de 22 ans d'efforts de vaccination. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on affirme que le coronavirus, le COVID-2, que nous vivons présentement, c'est pas la fin du monde, mais ce sera la mise en place d'un monde un peu différent de celui qu'on a connu. Il va falloir s'habituer à vivre en tenant compte de cette nouvelle réalité. Et ça a été le cas dans toute l'histoire de l'humanité. comme nous avons vécu, et pour le mieux, dans un monde totalement différent du monde qui existait pendant les grandes épidémies de peste bubonique et de variole. Tu sais que la variole et la peste ont tué plus de 2 milliards. 2 milliards.
2 milliards?
2 milliards. Pendant plusieurs siècles. La variole a tué à peu près 750 millions d'êtres humains. Et la peste bubonique, surtout les grandes épidémies du début du premier millénaire et la grande peste noire du 14e siècle et qui était réapparue, tant qu'on n'a pas trouvé l'antibiotique qui permettait de se débarrasser de la peste, eh ben ça a tué plus de 1 milliard d'individus. Donc, tu fais le total, variole, peste, c'est 2 milliards. Ben,
Paul, et c'est là que le discours anti-vaccin est absurde, quand tu sais à quel point ça a tué des gens.
Est-ce que tu as lu le papier d'Antoine Robitaille ce matin?
Oui, à propos de Georges Larac.
Moi, je l'aime beaucoup, Georges, mais...
Tout le monde aime Georges.
On l'aime tous.
Bien sûr.
Il a passé au travers.
Mais il a tort là-dessus.
Oui, moi, je suis convaincu qu'il a tort, comme je considère que des parents qui ont pris du retard pendant la pandémie pour faire vacciner leurs enfants, ne serait-ce que pour le RRO, rougeole, rubéole, oreillon, c'est pas une question de morale. C'est pas une question de morale, c'est une question sanitaire. Alors, écoute. Alors donc, à quoi s'attendre avec le COVID-2 dans notre univers? Veux-tu que je te donne un
petit portrait? Ben oui, vas-y.
Il va y avoir des épisodes, ça c'est pas moi qui parle, c'est évidemment la docteure Kobe. Il y aura des épisodes récurrents, probablement l'automne et l'hiver. Il y aura peut-être une fausse disparition pendant une période prolongée. Regarde le MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, je te le disais, très dangereux, beaucoup plus dangereux que le coronavirus actuel. Il n'est pas réapparu depuis 2015. Ça fait 5 ans.
Mais écoute, l'Ebola, corrige-moi, je me trompe, là, ça a pris, là, je pense que c'est sorti une première fois dans les années 70, c'est tombé en dormance pendant 2 décennies, puis bang, c'est revenu.
Exactement, et revenu en force. Celle qui peut nous en parler avec le plus de précision et d'émotion, c'est le docteur Joanne Liu. Elle a été au cœur, en Afrique de l'Ouest, de l'éclosion de cet épouvantable virus d'Ebola. Écoute, une létalité qui dépasse 50 %, 60 %, et dans certains cas, là, lorsque la propagation est plus rapide, c'est presque 95 % de décès. Wow. Alors, donc, ça veut dire la mise en place d'une distanciation récurrente. Un renforcement du masque en période de risque ou à des endroits que tu fréquentes, comme le métro, tu vois, mais pas tout le temps, pas 12 mois par année, pas 24 heures sur 24. La période de confinement restreinte pourrait également réapparaître, mais seulement dans des zones ciblées. C'est-à-dire que tu vois une éclosion, je sais pas moi, Cleveland, dans l'Ohio, bon ben là, tu fais un confinement autour d'une zone, un périmètre de sécurité. Et reverrons-nous dans les mois et les années à venir une pareille pandémie qui va entraîner une crise mondiale comme celle de cette année, surtout une crise aussi accompagnée d'une crise économique effroyable. Tous les experts sont d'accord, ça va dépendre des leçons qu'on retient de cette première vague.
Puis ça va dépendre aussi, Paul, du seuil de tolérance que les populations vont avoir.
Oui. Et ça va dépendre de la présence dans notre environnement de vaccins efficaces et probablement aussi de médicaments efficaces pour réduire les symptômes d'une personne qui serait symptomatique. Et ce qui contribuerait à un échec lamentable pour de futures vagues, incluant peut-être celle de l'automne, ce serait un manque flagrant de tests rapides et efficaces. Mettons qu'on disait, ça coûte trop cher les tests, le virus n'est plus dans l'air, on ne devrait pas en faire. Aucune mesure mise en place pour tenir compte des endroits clos, ça comprend les résidences pour aînés, les prisons, les usines, les tours à bureaux. Si on s'en occupe pas, ben on aura probablement ce qu'on mérite.
OK, deuxième sujet, parle-moi du président du Salvador.
Oui, le président Nayib Bukele, qui a avoué qu'il prenait de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, ça fait à peu près 3 mois que je lis là-dessus. Écoute, c'est devenu le médicament maudit.
Pas beaucoup d'adhésion chez les scientifiques.
Ben non, pas tellement. Alors, le président du Salvador prend de l'hydroxychloroquine comme prophylactique, c'est-à-dire à titre préventif, comme Donald Trump et son ami du Brésil, Jair Bolsonaro. Alors ça, quand tu es dans ce trio, si tu te fais regarder de travers, mettons, par beaucoup de scientifiques.
Tu es dans le trio des négationnistes.
Oui. L'OMS est contre. Ils ont mis fin aux études sur l'hydroxychloroquine.
Oui,
écoute,
oui.
D'abord, premièrement, ça fait 80 ans que le plaquénil est en circulation. Ça fait des miracles. Ça a contribué à éviter des millions de morts de la malaria. C'est un médicament extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Mais la France a décidé hier de bannir l'hydroxychloroquine pour traiter la COVID-19 en disant « ce n'est pas prouvé que ça améliore les choses ». Mais nous avons quelqu'un ici à Montréal, la docteure Emily McDonald. Elle est la directrice de l'unité d'évaluation des pratiques cliniques au CUSUM, le chemin anglais si tu veux.
Mm-hmm.
Elle dit « pas trop vite ». Elle veut poursuivre les recherches parce qu'elle trouve que les recherches qui ont été faites sur l'hydroxychloroquine comme médicament pour la COVID-19 ont été bâclées. C'est-à-dire que c'était une étude observationnelle. Elle dit « il nous faut une étude randomisée ». Qu'est-ce que ça veut dire? Une étude avec des gens qui en prennent et des gens qui prennent un placebo, qui n'en prennent pas autrement.
Mais en fait, le docteur Didier Raoult, là, en France, lui, il dit que c'est pas éthique de faire ça. Parce qu'il dit, tu sais, c'est la poule ou l'œuf. Il dit « quand tu as un médicament qui marche, mais tu devrais pas le donner à un groupe en sous forme de placebo, parce que c'est pour lui, c'est pas éthique ».
Ben oui, d'autant plus que lui, à sa clinique de Marseille, a eu un succès considérable. Au moment où la France enregistrait presque 1000 morts par jour, il avait un taux de succès de 95 %. Son argument, c'est qu'il le combine, il combine l'hydroxychloroquine à un antibiotique, l'azithromycine. Et il dit, c'est pas un produit miracle. Miracle, l'hydroxychloroquine, il faut savoir quand l'administrer et à quel patient on peut l'administrer. C'est pas tous les patients. Mmh. Un patient en phase terminale, tu lui donnes de l'hydroxychloroquine, selon Didier Raoult, ça marchera pas. Tu comprends?
Ben, en fait, cet hiver-là, ben, pendant qu'on les premières fois, on a parlé de ça, là, il y a eu un intérêt, il y a eu des études. Une étude qui a circulé, Paul, là, corrige-moi, je me trompe, je pense que c'est toi et moi qu'on en avait parlé. Quand tu as des symptômes, il semble que si tu prends de l'hydroxychloroquine, ben tu vas être malade moins longtemps. Mais c'est pas un vaccin, ça va pas te protéger
non, non, non.
du virus.
Exactement. Et c'est ce que dit Raoult. Il dit, moi, j'ai traité un médecin avec des patients malades. Dans certaines circonstances, avec la combinaison de l'antibiotique, ça s'est avéré extrêmement efficace. On en a donné ici, rappelle-toi, au début de la pandémie au Québec, on en a donné à l'hôpital juif de Montréal. Et je ne sais pas quel est le rapport et tout ça.
Oui.
Donc, prudence sur le pour ou le contre, mais présentement, je te dirais que la tendance politique, c'est de le bannir.
Oui, sauf au Salvador, au Brésil et aux États-Unis.
Exactement.
OK, hey Paul, parle-moi de dernier sujet. La pandémie qui déclenche une rage pour les produits dérivés de Starbucks.
Écoute, on est revenu avec les cinéparks, les drive-in. On est en train de régresser mais dans la nostalgie. Alors, il y a des sites d'échange comme Poshmark et OfferUp. Ces deux sites-là, là, si tu cherches des vieilles affaires, je sais pas, un vieux chandail, des Seals d'Oakland, mettons, tu vas sur Poshmark ou OfferUp. Et ces sites-là sont pris d'assaut si tu parquies par des acheteurs qui sont à la recherche de n'importe quel produit qui affiche l'emblème, le logo de Starbucks, le géant du café de Seattle, des tasses, des casquettes, des vêtements, des boucles d'oreilles, des serviettes en papier. Des spécialistes en consommation disent, Patrick, que c'est une réaction normale à une période de crise, de confinement. Tu as un besoin fondamental de t'accrocher à un symbole de ta vie normale antérieure. Alors,
ça s'appelle la nostalgie aussi.
Ça s'appelle pas mal la nostalgie. C'est pas mal ça. Alors, et parce qu'ils disent, physiquement, tu veux pénétrer dans un Starbucks, tu peux plus le faire. Alors, tu peux plus t'asseoir à une table, tu peux plus surfer sur l'Internet en dégustant ton café. Donc, les gens se préparent leur café à la maison, mais tentent de recréer artificiellement chez eux le besoin fondamental dont ils sont privés depuis 2 mois et demi, c'est-à-dire l'identification Starbucks.
Je m'ennuie d'aller au Starbucks.
Ben, c'est pas désagréable d'aller surfer un petit peu sur l'Internet en même temps puis d'étirer ton latté.
Merci, Paul. On se reparle demain.
À demain.
18h17. OK, vous dire que Marie Laberge, l'autrice, va être avec nous. Hein. Son livre « Traverser la nuit » a été couvert d'éloges par le premier ministre du Québec tantôt. Ça parle d'une relation entre une vieille dame et une soignante dans ce qui ressemble à un CHSLD. Et après la pause, Fabienne Larouche, productrice de District 31 et de plusieurs autres bons produits télévisuels, va être avec nous pour parler du calendrier de tournage.